Bonjour à toutes et à tous. Nous allons nous arrêter quelques instants pour ouvrir la parole de Dieu. Et avant ça, nous allons prier pour que le Seigneur puisse lui-même conduire ces instants et que nous puissions tous ensemble nous mettre à son écoute. Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi. Parce que tu es le Dieu de la vie et le Dieu de la victoire. Tu es victorieux sur toute chose. Tu es victorieux pour l'éternité. Et Seigneur, tu nous emmènes dans ta victoire. Tu fais de nous aussi un peuple victorieux. Et cela, Seigneur, nous réjouit. Nous voulons nous en souvenir, mais nous voulons aussi appliquer ça à nos vies. Tu nous donnes la victoire. Tu nous rends victorieux. Et Seigneur, nous savons que cette éternité, nous l'aurons auprès de toi. Mais avant, tu veux que nous puissions marcher en toi. Tu veux nous conduire et nous diriger pour notre vie sur la terre. C'est pourquoi nous voulons donner de l'importance à ouvrir ta parole. Et Seigneur, aide-nous à y donner toujours plus d'importance, d'ouvrir ta parole. Parce que c'est lorsque nous l'ouvrons que nous t'écoutons. C'est lorsque nous l'ouvrons que nous pouvons mieux te connaître. C'est lorsque nous l'ouvrons, Seigneur, que nous pouvons être édifiés et instruits dans la justice. Nous voulons ouvrir ta parole maintenant. Seigneur, c'est un geste saint que d'ouvrir les Écritures. Et c'est un geste qui exige l'œuvre de ton esprit. Nous ne sommes pas capables de comprendre les Écritures par nous-mêmes. Nous avons besoin que ton esprit, Seigneur, nous instruise, nous éclaire, nous parle. Alors c'est ce que nous te demandons maintenant, que ton esprit parle, qu'il parle dans nos cœurs, qu'il parle dans cet espace, qu'il parle dans ce lieu, et que tu puisses régner, Seigneur. C'est ce que nous voulons te demander, alors que nous ouvrons nos cœurs à ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle, et merci parce que tu vas remplir ces instants de ta grâce. Amen. Nous allons donc lire deux textes ce matin, deux textes du Premier Testament. Le premier texte que nous allons lire, c'est un texte dans Deutéronome, chapitre 4. Et nous allons lire les versets 1 à 10. Deutéronome, chapitre 4, versets 1 à 10. Deutéronome 4, versets 1 à 10. Voici ce qui est écrit. « Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. » Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous l'ai prescrit. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après de Baal-Péor. Et vous, qui êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous ?» toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Amen. Le deuxième texte, cette fois, dans le livre de Néhémie. Néhémie, chapitre 9, du verset 9 au verset 15. Nous lisons donc dans le chapitre, vous pourrez lire le début du chapitre et la fin si vous le souhaitez. À partir du verset 9, tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme, comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu, qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton sabbat et tu leur prescris par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Amen. Depuis le début de cette année, nous sommes dans ce thème « Tout mon plaisir est en toi » ou encore « Faire de l'Éternel nos délices ». Pour rappel, nous avons dit que ce qui caractérise un enfant de Dieu, la caractéristique d'un enfant de Dieu, c'est qu'il prend son plaisir en Dieu, c'est qu'il trouve son plaisir en Dieu. L'enfant de Dieu se caractérise par le fait qu'il aime Dieu et qu'il aime la présence de Dieu. L'enfant de Dieu se caractérise par le fait que Dieu est pour lui la plus grande source de plaisir. Rappelez-vous le psaume 1, « Heureux l'homme qui met tout son plaisir dans la loi de l'Éternel ». Donc comme chrétiens, comme enfants de Dieu, nous ne sommes pas condamnés à subir la relation avec Dieu. Nous ne sommes pas condamnés à une marche avec Dieu contrainte. Nous ne sommes pas condamnés à une vie de foi pénible et difficile. Au contraire, nous découvrons Dieu comme étant la plus grande source de joie et la plus grande source de plaisir. Un chrétien n'est pas un enfermé, c'est pas quelqu'un qu'on a mis en prison, c'est quelqu'un qui est sorti de prison. Et en sortant de prison, il a découvert un Dieu merveilleux, beau, grand, juste, parfait, lumière, vérité, paix. Et Dieu est devenu sa plus grande source de joie, sa plus grande source de délices. Il n'y a rien ni personne de plus beau que Dieu. Il n'y a rien ni personne de plus attirant que Dieu. Il n'y a rien ni personne de plus exaltant que Dieu. Il n'y a rien ni personne de plus merveilleux que Dieu. On ne trouvera jamais rien de plus excitant que Dieu. On ne trouvera jamais rien de plus attirant que Dieu. Il est l'être le plus beau, le plus parfait, le plus attirant qui existe. Et dès lors, pour le croyant, Dieu devient source de joie, source de bonheur, source de délices. Ceci, rappelez-vous, nous l'avons dit, est la normalité de la vie chrétienne. C'est la normalité de la vie chrétienne. Ce qui est normal pour un chrétien, c'est de trouver son plaisir en Dieu. Ce qui est anormal pour un chrétien, c'est de ne pas trouver de plaisir en Dieu, c'est de ne pas trouver de plaisir dans sa relation avec Dieu. Et nous avons dit, rappelez-vous, que nous sommes donc appelés à faire de Dieu nos délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et nous avons dit que trouver son plaisir en Dieu, faire de l'Éternel ses délices, ces cinq choses. Premièrement, trouver notre plaisir dans la personne de Dieu. Trouver notre plaisir dans la présence de Dieu. Trouver notre plaisir dans la parole de Dieu. Trouver notre plaisir dans le peuple de Dieu. Et trouver notre plaisir dans l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le troisième point. Trouver notre plaisir dans la parole de Dieu. C'est le troisième des P. Trouver notre plaisir dans la parole de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est la position la plus enviable qui puisse exister. Nous l'avons dit tout au long de ce culte, par la foi, nous avons eu la grâce de devenir enfants de Dieu, en croyant en Jésus. Et cela n'a été possible qu'à cause de ce qu'il a fait pour nous. Parce que Jésus est mort pour nous, nous avons eu la grâce de devenir enfants de Dieu. Et c'est la plus belle des positions. C'est la situation la plus enviable. C'est la situation la plus réjouissante. Nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes bénis et heureux parce que Dieu nous a donné un package de cadeaux merveilleux. Hein, on pourrait dire en dessous du sapin, on a une ribambelle de cadeaux qui nous sont donnés. On a un package merveilleux comme enfants de Dieu. Alors on rappelle très souvent, et on l'a dit beaucoup aujourd'hui, tous les cadeaux qu'il y a sous le sapin quand on est enfant de Dieu. Alors on sait que notamment il y a le pardon des péchés. Il y a un cadeau, pardon des péchés, qui t'est donné. Oh, je suis pardonné, mes fautes sont effacées, je suis pardonné devant Dieu, je peux m'approcher de Dieu. La justification, je suis juste devant Dieu, Dieu me considère comme juste. Ça, c'est un cadeau merveilleux. J'ai rien fait pour ça. Je suis pas digne. Je ne suis pas juste du tout. Et pourtant, dans sa bonté, il me voit comme juste. La vie éternelle, nous avons l'assurance d'être auprès de lui pour toujours. L'adoption, nous devenons enfants de Dieu. La régénération, nous devenons des nouvelles créatures. Voilà plein de cadeaux qu'il y a sous le sapin. Et par-dessus tout, le plus grand des cadeaux, c'est Dieu lui-même. Dieu est le plus grand des cadeaux. Bien sûr, on est justifié, pardonné, mais le plus beau des cadeaux, c'est que lui, nous pouvons le connaître. Et le connaître, dans la Bible, vous savez que c'est une relation intime. Dieu nous est donné comme un père avec qui nous pouvons avoir une relation intime. Le cadeau de Dieu lui-même, c'est le plus beau des cadeaux. Je peux être en communion avec Dieu, je peux le connaître, il est mon Père, je peux vivre dans sa présence, je peux m'approcher de lui, c'est le plus beau des cadeaux. Et parmi tous les cadeaux qu'il y a sous le sapin, il y a un cadeau que l'on a plus souvent tendance à oublier. C'est le cadeau de la parole de Dieu, et plus particulièrement, le cadeau des commandements de Dieu. Dans tous ces cadeaux, il y a la justification, le pardon des péchés, la joie, la paix, mais aussi les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu sont un cadeau pour le croyant. En tant qu'enfant de Dieu, une de nos bénédictions, une de nos plus grandes bénédictions, c'est que Dieu nous a donné des commandements. C'est un cadeau que nous recevons de Dieu et ses commandements vont avoir un effet pour conduire et diriger nos vies. Bien souvent, on parle des commandements de Dieu comme étant des fardeaux. Bien souvent, on en parle comme des contraintes. Il est frappant de voir que dans les textes que nous avons lus aujourd'hui, les commandements de Dieu sont présentés comme étant des privilèges du peuple de Dieu. Des privilèges du peuple de Dieu. Premièrement, Deutéronome chapitre 4, nous l'avons lu, c'est un passage qui est un des discours de Moïse. Et dans les discours, Moïse résume beaucoup la vie du peuple d'Israël et Moïse rappelle des souvenirs du peuple d'Israël, des souvenirs de l'action de Dieu, des souvenirs des délivrances, des souvenirs de tout ce que Dieu a fait, des souvenirs des rébellions du peuple, des souvenirs de comment est-ce que Dieu a été fidèle à son alliance. Donc il y a deux grands discours, et dans ce premier discours, Moïse parle énormément et il rappelle plein de choses, mais aussi il fait des exhortations au peuple. Il rappelle ce que Dieu a fait, mais il fait aussi des exhortations au peuple. Et dans le texte qu'on a lu, Moïse encourage les enfants d'Israël à garder les commandements de Dieu. Il les encourage à les mettre en pratique et à y rester attachés. Et là, versets 7 et 8, Moïse dit « Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proche que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons ? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, tout comme cette loi que je vous présente aujourd'hui ?» Il exprime une différence entre Israël et les autres peuples. C'est que premièrement, Israël n'a pas un dieu des idoles faites de main d'homme, bien sûr. Ils ont un dieu proche, chaque fois qu'on l'invoque, un dieu proche, un dieu à l'écoute. Mais aussi, Israël a reçu des ordonnances, des commandements et des lois justes. Quelle est cette grande nation qui est des lois, des ordonnances justes comme nous les avons? Voici ce qu'il dit aux enfants d'Israël. Dieu a donné à son peuple des lois qui structurent son peuple, qui orientent son peuple, qui soutiennent son peuple. La vie du peuple de Dieu n'est pas une vie comme ça, sans repère, sans cadre, où on est perdu, où on fait comme on pense. C'est une vie dans laquelle Dieu met du cadre, organise, structure, met des repères pour que nous sachions par où nous pouvons marcher. Dieu a pris soin de son peuple en le conduisant dans le désert, en le délivrant des ennemis, mais Dieu a pris soin de son peuple aussi en lui donnant des commandements et des lois qui sont justes. C'est pas un peuple qui a été délaissé au chaos, c'est pas un peuple qui a été délaissé au désordre, c'est un peuple dont Dieu a pris soin en donnant des lois et des ordonnances. Et vous voyez dans le verset 6, il dit même que les commandements de Dieu seront leur sagesse et leur intelligence, et que les peuples autour seront admiratifs de voir la sagesse et l'intelligence du peuple de Dieu. Ces commandements, dit-il, seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Voyez la qualité du cadeau. Non seulement Dieu les donne, mais ce seront des commandements qui seront leur sagesse et leur intelligence. Voyez quelle importance ont les commandements dans la vie du peuple de Dieu. D'où l'importance également de la mise en pratique des commandements de Dieu. Un chrétien devrait pouvoir dire « Je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé ». Vous connaissez le chant. « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé ». Je devrais pouvoir dire « Je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé ». Je suis heureux car Jésus m'a délivré. Je suis heureux car Jésus m'a relevé. Mais un chrétien devrait pouvoir dire aussi, je suis heureux parce que Jésus m'a donné des commandements. Je suis heureux parce que Dieu m'a donné des lois et des ordonnances justes. Je suis heureux parce que Dieu m'a donné des commandements. Un jeune chrétien devrait être fier et dire, Dieu m'a donné des commandements et des lois qui sont justes. Un jeune chrétien devrait pouvoir dire « Je suis privilégié, je suis meilleur que les autres, parce que Dieu m'a donné des commandements et des lois qui sont justes. » Voyez ce qu'il dit, « Ces commandements seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. » Et c'est clairement une supériorité. Vous êtes supérieur aux autres parce que vous, Dieu, vous a donné des commandements. Parce que vous, Dieu, vous a donné un cadre. Parce que vous, Dieu, vous a montré par où vous devez aller. Je suis supérieur aux autres, je suis au-dessus de la masse, parce que Dieu m'a donné des commandements pour m'aider, pour m'orienter, pour soutenir ma vie. Les commandements de Dieu, c'est un cadeau que nous recevons de la part de Dieu. Et nous le voyons déjà dans le monde d'aujourd'hui. Lorsque l'on marche sans Dieu, on est, comme dit l'expression, sans foi ni loi. Alors on peut avoir une morale, heureusement, sinon le monde serait vraiment sans dessus dessous. Mais quoi qu'on en dise, on fait comme on pense. Ou alors on décide, on se met d'accord, on fait des lois pour dire, ben voilà, nous, société belge, nous pensons que c'est bien. mais ça n'est pas la sagesse et l'intelligence de Dieu. Même si tous les Belges disent, ben vous savez, nous on est tous d'accord de dire que l'avortement ce n'est pas grave, ça c'est ce que les Belges disent, mais ce n'est pas la sagesse et l'intelligence de Dieu. Donc lorsque l'on vit sans Dieu, on a beau être une grande nation, faire des beaux textes, quand on vit sans Dieu et qu'on vit sans les lois et les ordonnances de Dieu, on est livré au chaos. C'est un chaos organisé parce que ça tourne, mais c'est quand même être livré au chaos. Dans le deuxième texte que nous avons lu, Néhémie chapitre 9, c'est une prière de repentance que fait le peuple. Et dans cette prière de repentance, il y a un rappel de toute l'histoire du peuple et de comment Dieu s'est manifesté, de comment est-ce que Dieu a parlé au peuple. Donc vous voyez vraiment, il y a toute l'histoire. Tu nous as fait sortir d'Égypte, tu nous as sauvés, tu nous as ceci, tu nous as cela. Et dans cette prière, Néhémie chapitre 9, verset 13, on nous cite une bénédiction du peuple de Dieu, verset 13. « Tu descendis sur la montagne du Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. » Voyez comment il qualifie les choses. Oui, tu les as fait sortir du pays d'Égypte. Oui, tu as fait tomber Pharaon, mais aussi ta bénédiction, tu leur as donné des ordonnances qui sont justes. Tu leur as donné des lois de vérité. Tu leur as donné des préceptes et des commandements excellents. Vous savez ce que c'est excellent? Excellent, c'est ce qui qualifie ce qui est supérieur, ce qui est de qualité élevée. Vous savez bien, par exemple, vous mangez beaucoup de choses excellentes. C'est quoi un saumon excellent? Vous mangez beaucoup ça, vous. Tous les mets chers, vous aimez bien. Ou quand vous mangez, qu'est-ce que vous mangez encore dans vos fêtes là? Du crabe? Qu'est-ce que vous mangez d'autre? Le truc là que vous mangez à Noël, comment est-ce qu'on appelle ça? La dinde. La dinde, oui, mais il y a un autre truc que... Le foie gras, voilà. Tu t'es dénoncé, Nathalie. on sait ce que tu aimes. Le foie gras. Quand on dit « Ah, c'était un foie gras, c'était excellent », ça veut dire « C'est de grande qualité, c'est excellent ». Excellent, ça veut dire qu'il n'y a pas mieux, c'est excellent. Tu leur as donné des lois, des ordonnances excellentes. Ce que Dieu a donné à son peuple, ce sont des lois et des principes excellents. Dieu a donné à son peuple des lois, des préceptes de grande valeur et il pouvait en être reconnaissant. Vous voyez que dans le verset 13, il n'est pas dit « Oh là là, Seigneur, c'est vraiment terrible, tu leur as donné beaucoup de lois qui devaient obéir et ils n'avaient pas le choix et c'était terrible et ils pleuraient. » Non, c'est présenté comme un bénéfice, comme une joie, comme un privilège. Il y a un autre verset dans la parole de Dieu qui dit exactement la même chose. Dans le psaume 147, versets 19 à 20, vous pourrez encore une fois lire l'ensemble du psaume. C'est encore un psaume dans lequel on liste des bénédictions du peuple de Dieu. Et notamment, on cite la bénédiction du fait que Dieu protège son peuple, plein de choses. Et à la fin du psaume, versets 19 et 20, il est écrit « Il révèle sa parole à Jacob, donc Dieu, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. » Et elles ne connaissent point ses ordonnances, louer l'Éternel. Donc, en d'autres termes, les autres nations n'ont pas cette grâce-là. Elles n'ont pas cette chance-là d'avoir les ordonnances et les commandements de Dieu. Mais nous, nous avons cette grâce-là. Et le texte termine, louer l'Éternel. Louer l'Éternel parce qu'il vous a pardonné. Louez l'Éternel parce qu'il vous a délivré, louez l'Éternel parce qu'il vous a consolé, mais louez l'Éternel aussi parce qu'il vous a donné des lois et des commandements. Comme disciples de Jésus, nous devons savoir combien les commandements de Dieu sont un cadeau pour nous. Sont un cadeau à recevoir, à accueillir, dont nous pouvons nous réjouir et même être fiers comme nous le montre ce texte-là. Même si ces commandements, dans un contexte humain, peuvent être moqués, même si ces commandements, dans un contexte humain, peuvent être ridicules, nous pouvons être fiers de marcher avec les commandements de Dieu. Dans le sac à dos de nos vies, il y a les commandements de Dieu. Nous ne sommes pas là en train de marcher juste à l'aveugle, en se disant « bon, je ne sais pas trop ce que je dois faire, je ne sais pas trop comment je dois parler, comment je dois me comporter, comment je dois agir, je vais faire comme je pense et on verra bien ». Nous avons dans notre sac à dos plein de commandements que Dieu nous a donnés, qui mettent du cadre dans nos vies, qui nous donnent de la sagesse, qui nous orientent, qui nous soutiennent. Et Jésus lui-même a énormément parlé des commandements de Dieu. Une des premières choses qu'il a dit dans son ministère, pour être clair avec tout le monde, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi. » D'entrée de jeu. Ne pensez pas que je sois venu pour vous libérer des commandements de Dieu. Ben non, puisque c'est des bénédictions. Vous imaginez l'histoire ? Quand on dit que Jésus a supprimé les commandements de Dieu, ça veut dire que Dieu nous a donné un cadeau et que Jésus est venu, il nous a enlevé le cadeau. Pas du tout. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Et il dit même, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Celui qui enseignera et qui observera ses commandements sera grand dans le royaume des cieux. Vous savez même que dans la suite du passage, Jésus montre que les exigences sont même plus hautes. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Donc il supprime pas le commandement, il va même encore plus loin. Donc Jésus ne supprime pas les commandements de Dieu, il les augmente, c'est-à-dire qu'il augmente notre bénédiction. Nous avions déjà la bénédiction des commandements de Dieu à la base, mais il nous en rajoute des exigences et du coup nous sommes encore plus bénis que dans la première alliance. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir et nous aider à comprendre le véritable sens de la loi. Indépendamment de la religiosité, des traditions, il est venu pour que nous puissions pleinement comprendre la loi. Dans la suite de sa vie, Jésus a parlé de cela, notamment dans Jean 14. Il a parlé à plusieurs reprises de la notion des commandements. Alors on pourrait lire énormément, mais si on prend juste Jean 14, 21, il dit ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. » Et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui garde les commandements de Dieu donne le signe qu'il aime Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous ne prenons pas plaisir à ses commandements. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous n'avons pas de joie à respecter sa parole. Ça n'a pas de sens. Quand on aime Dieu, on aime sa parole. Quand Dieu est l'objet de nos délices, eh bien, ces commandements sont également l'objet de nos délices. Ils sont pour nous source d'attrait, source de joie. Remarquez que dans le texte qu'on vient de lire, la notion des commandements de Dieu est entourée uniquement d'amour. Avant et après, on parle de l'amour. La source de notre obéissance est notre amour pour Dieu. C'est parce que nous aimons Dieu que nous obéissons à Dieu. Et notre obéissance appelle sur nous l'affection du Père. Celui qui obéit à mes commandements, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ça, c'est intéressant, hein, pour nous autres, les chrétiens évangéliques. Hein, il fera ma demeure chez moi parce que je crois. Amen, alléluia, je suis pardonné, je suis sauvé. Hein, c'est bien. Mais Jésus dit, celui qui garde ma parole, celui-là, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il ne suffit pas, voyez-vous, d'être justifié, Il faut aller dans tout le processus. Je suis justifié, je suis réconcilié avec Dieu. Et quand je suis réconcilié avec Dieu, qu'il devient mon Père, il me donne des commandements et je me réjouis d'obéir à ses commandements. Ça, c'est tout l'évangile. L'évangile ne s'arrête pas à la justification. Il y a un tout. Dans l'évangile de Jean, toujours, dans le chapitre d'après, Jean 15, Jésus, c'était, en fait, il l'a répété pour être sûr que vous compreniez. Parce qu'il a vu à l'avance les gens de Baïmon, il s'est dit, oui, mais ceux-là, ils sont quand même un peu durs de la feuille. Et il y a beaucoup de rebelles là-bas. Donc, il l'a répété dans le chapitre d'après. Comme ça, Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus insiste donc sur la garde des commandements et il ajoute quelque chose de très particulier, très intéressant. Il dit, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Ainsi, Jésus lui-même a obéi aux commandements de son Père. Jésus a obéi. Comme Jésus est le Fils éternel de Dieu et qu'il s'est montré obéissant aux commandements de son Père, nous qui sommes ses enfants par adoption, nous sommes aussi appelés à vivre selon ses commandements. Comme Jésus s'est montré le Fils éternel de Dieu, l'objet éternel de l'affection du Père, et a vécu en obéissance par rapport au Père, nous, ses enfants par adoption, nous devons vivre dans l'obéissance, une obéissance libre, volontaire, zélée et joyeuse. Volontairement et joyeusement, nous sommes appelés à vivre selon ses commandements. Jean le dit dans son évangile, mais Jean revient aussi là-dessus énormément dans ses épîtres, dans ses trois épîtres. Et par exemple, il dit dans son épître, « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. » Il dit dans sa deuxième épître, 2 Jean 1, 6, « Et l'amour consiste à garder ses commandements. » Et l'amour consiste à garder ses commandements. Devant le constat que les commandements de Dieu sont appelés des bénédictions, des cadeaux, nous n'avons qu'une seule réponse possible. Nous devons chérir les commandements de Dieu. C'est le titre de cette prédication. Chérir les commandements de Dieu. S'ils sont une bénédiction pour nous, s'ils sont un don de Dieu pour nous, nous devons les chérir. Autant nous devons chérir la présence de Dieu, autant nous devons chérir la rencontre avec Dieu, autant nous devons chérir notre salut et l'évangile qu'il nous l'a annoncé, autant nous devons chérir les commandements de Dieu. Si nous comprenons vraiment les Écritures, nous ferons des commandements de Dieu des trésors dans nos vies. Des trésors auxquels on ne touche pas. Nous allons faire tout pour ne pas mépriser les commandements de Dieu. Nous allons faire tout pour ne pas les négliger. Nous allons faire tout aussi pour ne pas en inventer d'autres. Nous allons chérir les commandements que Dieu nous a donnés et nous allons leur donner une importance dans notre vie. Alors, quand vous pensez aux commandements de Dieu, quel est le sentiment que vous avez ? Est-ce que lorsqu'on parle des commandements de Dieu, de façon générale, ou lorsqu'on en cite un en particulier, vous ressentez de la peur, de la lassitude, encore les commandements, de l'agacement, ou alors de la joie, du zèle et de la paix? Eh bien, normalement, notre cœur doit être tourné vers le zèle, la joie et la paix lorsqu'on évoque un commandement de Dieu. Nous n'obéissons pas par obligation, mais joyeusement et volontairement. Dans nos lectures, dans nos conversations, dans nos réunions d'église, dans nos échanges, l'évocation d'un commandement de Dieu doit être pour nous source de joie et de bonheur. Car ce sont des trésors. Et on avait cité énormément, voyez-vous, les versets, notamment du psaume 119. Psaume 119, 14, c'est David qui parle. « Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. » Comme si je possédais tous les trésors. Psaume 119, verset 11. « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. » Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Psaume 119, verset 162. « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. » Je me réjouis de ta parole comme quelqu'un qui trouve un grand butin. Voilà comment le chrétien est appelé à être en relation avec les commandements de Dieu. Dans la joie, ils sont précieux, ils sont bons. Et nous devons y rester attachés. Pourquoi les commandements de Dieu sont un cadeau ? Alors nous allons nous arrêter sur une première raison, peut-être une deuxième, mais ça dépendra un peu. Mais la première raison, elle est très importante. Et il faut qu'elle reste gravée dans nos cœurs. C'est très important, parce que ce n'est pas si souvent assez clair dans la tête de tout le monde. Première raison pour laquelle les commandements de Dieu sont un cadeau. Parce que les commandements de Dieu sont le reflet de la nature de Dieu, du caractère de Dieu, du cœur de Dieu. Les commandements de Dieu sont le reflet du cœur de Dieu. Ça, c'est la phrase à retenir pour aujourd'hui. On mettra quelqu'un à la porte de la salle avant que vous sortiez pour voir si vous avez retenu la phrase. Les commandements de Dieu sont le reflet du cœur de Dieu. Le caractère de Dieu, la nature de Dieu se manifeste dans ses commandements. Très souvent, on a présenté les commandements de Dieu comme étant des lois de terreur, des principes inflexibles, des lois que Dieu nous donne juste pour le plaisir. Comme si c'était juste, je vais les enfermer et je vais les empêcher de jouir. Parenthèse ouverte, ça a été la technique du diable. Mais non, Dieu ne veut pas que vous deveniez comme lui, c'est pour ça qu'il vous dit que vous ne pouvez pas. Donc qu'est-ce qu'il fait le diable? Il fait croire à Adam et Ève que Dieu est malveillant et qu'il leur donne des lois contre eux. Ça, c'est à la base du péché dans l'histoire de l'humanité. Quand on commence à croire que Dieu nous donne des ordres contre nous. Or, Dieu nous les donne pour nous, et ses commandements nous révèlent sa volonté. Les commandements de Dieu nous révèlent sa volonté et donc son caractère. Dans le commandement de Dieu, j'apprends qui est Dieu. Dans le commandement de Dieu, j'apprends à connaître le cœur de Dieu. Alors on pourrait le dire de façon simple. Si vous rencontrez un homme, on va l'appeler Robert. Il n'y a pas de Robert ici. Pas encore. Il y en aura un jour. Si Robert vous dit, je ne veux pas qu'on me presse. Je ne veux pas qu'on me mette la pression. Je ne veux pas qu'on me presse. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Est-ce qu'on doit juste comprendre que Robert est un casse-pied, que... Il est mal réveillé, qu'il est pénible? Ou est-ce que nous devons simplement comprendre que dans ce principe-là, Robert nous donne sa volonté, et donc au travers de sa volonté, nous comprenons le caractère de Robert. Quand Robert dit « je ne veux pas qu'on me stresse », ça veut dire « je suis quelqu'un qui aime aller à mon rythme ». Donc Robert donne sa volonté, mais sa volonté nous apprend son caractère, sa personne, comment il est, son cœur, sa personnalité. Si vous prenez une femme, on va l'appeler Denise. Il n'y a pas de Denise non plus ici. Et que Denise dit, vous savez, moi, je veux avoir terminé tous mes dossiers à la fin de ma journée avant de rentrer chez moi. Il faut que j'ai tout terminé, et tant que je n'ai pas terminé, je reste au bureau. Est-ce que Denise est juste une folle, une femme différente des autres? Nous comprenons là le caractère de Denise. Nous comprenons son cœur, nous comprenons sa personnalité, nous comprenons ce qu'elle est. Donc au travers de sa volonté, ce qu'elle nous dit, je ne veux pas quitter le bureau tant que je n'ai pas fini, nous découvrons qui elle est. Et c'est la même chose avec Dieu. Lorsque Dieu dit quelque chose, lorsque Dieu donne sa volonté, nous découvrons qui il est, nous comprenons sa nature, nous comprenons son cœur. Quand Dieu dit quelque chose, cela nous parle de son caractère. Chaque commandement de Dieu nous révèle quelque chose du cœur de Dieu. Chaque commandement que nous trouvons dans la parole nous révèle le cœur de Dieu. Et donc, lorsque je vis en alignement avec les commandements de Dieu, je vis en alignement avec le cœur de mon Père. Je ne suis pas là obligé de, je ne suis pas là enfermé à. Lorsque je vis en accord avec les commandements de Dieu, j'aligne ma vie, mes actes, mes pensées au cœur de mon Père. Lorsque Dieu dit, par exemple, « Tu ne mentiras point », c'est parce que sa volonté, c'est que les choses se fassent dans la vérité. Et c'est parce que son caractère, c'est d'être un Dieu de vérité. Je ne veux pas que tu mentes parce que moi, je suis un Dieu de vérité. Je ne mens jamais. Je ne trompe pas. Je ne veux pas de mensonge. Je ne veux pas d'hypocrisie. Je ne veux pas de faux semblants. Je ne veux pas que tu mentes parce que je suis un Dieu vrai. Je suis le Dieu de toute vérité. Donc quand Dieu dit « tu ne mentiras point », nous apprenons quelque chose sur le cœur de Dieu. C'est un Dieu vrai. La vérité, c'est son être. C'est un Dieu vrai. Lorsque Dieu dit « tu aimeras ton prochain », c'est parce que sa volonté, c'est que nos relations soient des relations d'amour, parce qu'il est lui-même l'amour. Tu aimeras ton prochain parce que moi, je suis amour. Je suis amour et donc je veux que tu aimes ton prochain. Je veux que tu marches dans l'amour. Je veux que tu manifestes l'amour. Donc quand Dieu me dit « tu aimeras ton prochain », il m'appelle à vivre en accord avec son cœur et avec sa nature. Lorsque Dieu dit, dans Deutéronome par exemple, « une femme ne doit pas s'habiller comme un homme et un homme ne doit pas s'habiller comme une femme », vous connaissez ce commandement-là, c'est que sa volonté se fasse les choses, c'est que les choses se fassent dans l'ordre et dans la clarté. Quand Dieu dit ça, il dit « je suis un Dieu d'ordre ». Je n'aime pas les mélanges, je n'aime pas les confusions, je n'aime pas les inversions, je n'aime pas le désordre, je n'aime pas les déviations, j'aime l'ordre, je suis un Dieu d'ordre. Les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes. Je suis un Dieu d'ordre. Donc, lorsque je découvre les commandements de Dieu, je découvre qui est Dieu. Lorsque Dieu dit « soyez en paix avec tous, pour autant que cela dépende de vous », j'apprends que Dieu est un Dieu de paix, qui favorise la paix et qui veut que les humains vivent dans la paix. Chaque commandement de Dieu nous révèle une part, une facette du cœur de Dieu. Et donc, les commandements de Dieu sont des cadeaux parce que, au travers d'eux et de la vie que nous menons en accord avec eux, nous pouvons découvrir toujours plus du cœur de Dieu. Deuxième raison pour laquelle les commandements de Dieu sont une bénédiction. Parce qu'ils sont justes et ils sont vrais. Si vous lisez Romains 7, verset 12, il est dit par exemple « la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. » La loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Premièrement, les commandements de Dieu sont la vérité. Ils sont certains. Il n'y a aucun doute sur le fait que c'est vrai. Il n'y a aucun doute. Aucun doute. Ce que Dieu dit, c'est toujours vrai, sauf jamais. C'est toujours vrai. Il n'y a aucun doute sur le caractère vrai de ces commandements. Et dans la parole, il est écrit aussi, « le fondement de ta parole est la vérité ». et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Le fondement de ta parole, c'est la vérité. Donc, c'est une bénédiction parce qu'ils sont vrais. Par exemple, lorsque Dieu nous dit de ne pas rendre le mal pour le mal, c'est un commandement qui est vrai et qui est certain. Même si ça va à l'encontre de notre logique humaine, nous pouvons être certains que ce qui est bon de faire, ce qu'il est bon de faire, c'est de ne pas rendre le mal pour le mal. C'est ce qui est bon, c'est sûr et certain. Les commandements de Dieu sont vrais. Mais aussi, les commandements de Dieu sont justes. Ils sont parfaitement adéquats. Il n'y a aucune injustice dans les commandements de Dieu. Ils sont parfaitement équilibrés. C'est ni trop peu, ni trop... Ils sont parfaitement justes. Dieu est parfaitement juste et la Bible dit que il siège sur la justice et l'équité. Son trône est bâti sur la justice et l'équité. Dieu est parfaitement juste. Et donc, lorsque Dieu nous dit, par exemple, de respecter les autorités qui sont établies pour nous, sur nous, c'est juste. Il n'y a pas de doute. C'est juste. Parce que c'est lui qui le dit. Lorsque Dieu nous dit de ne pas exciter les querelles, mais d'être des artisans de paix, c'est juste. Il n'y a aucun doute, c'est juste. Lorsque Dieu nous dit de ne pas nous moquer du pauvre, c'est juste. Lorsque Dieu nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, c'est juste. Lorsque Dieu nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent, c'est juste. Tous les commandements de Dieu sont justes. Et voici la deuxième raison pour laquelle les commandements de Dieu sont un cadeau. Alors, frères et sœurs, si nous voulons faire de l'Éternel nos délices en cette année, nous devons faire de sa parole nos délices. Mais faire de sa parole nos délices, c'est pas quelque chose de comme ça, oui, j'aime bien ta parole. Dans la parole, il y a aussi les commandements. Et ces commandements sont des cadeaux. Le monde a besoin de voir des chrétiens qui marchent avec cette conscience que c'est un cadeau. Hein, ta religion te l'interdit ? Non, mon père trouve que ce n'est pas bon pour moi. Et joyeusement, j'obéis. Je me réjouis de ces commandements. Je me sens privilégié de marcher avec ceux-ci. Je ne suis pas un pauvre qui est enfermé dans les commandements. Je suis joyeux et heureux de vivre selon la parole de Dieu. On continuera donc la semaine prochaine, mais que d'ici là, Dieu nous encourage, n'est-ce pas, à chérir ses commandements. Amen.